C'est vraiment très sympa ce truc.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, et on commence donc avec le rappel des titres pour aujourd'hui. Au sommaire, nous irons en Tunisie. Nous verrons aussi l'Océan Viking, ce navire qui a accosté en Italie ce week-end. Nous ferons le point sur les événements en Arabie Saoudite et puis au National. Il sera question de la réforme des retraites, de la rentrée politique et de pesticides. On terminera ce tour d'actualité médiatique par une revue de presse avec Mathilde. Et puis on reviendra sur la récente expulsion du squat L'Amphi-Z à Villeurbanne. Du côté des actualités locales, c'est donc le journal sur Transistor.
Et on commence donc par la Tunisie. Oui, le 15 septembre dernier, les Tunisiens étaient appelés aux urnes pour élire le successeur du président Essebsi décédé en juillet dernier. Le résultat du premier tour de ce scrutin présidentiel, la défaite des partis politiques traditionnels et la victoire de deux candidats outsiders. Le juriste hyper-conservateur Kais Saied, défavorable à l'égalité homme-femme dans l'héritage, à l'abolition de la peine de mort et à la dépénalisation de l'homosexualité, et Nabil Karoui, magnan à télévision, incarcéré pour évasion fiscale, mais quand même populaire pour ses actions caricatives en Tunisie rurale. Depuis 2015, la Tunisie a été gouvernée par une coalition entre modernistes et islamistes du parti Ennahda. Aujourd'hui, l'avenir de ce petit pays d'Afrique du Nord reste incertain. La scène politique est fragmentée et les modernistes divisés, les populistes sont de plus en plus appréciés, le parti islamiste s'est normalisé et les compétences du président sont vivement débattues. Bref, des enjeux nombreux pour une élection qui marquera certainement la fin des clivages traditionnels et du pouvoir des partis dits « du système ». On passe.
Le navire humanitaire Ocean Viking, affrété par SOS Médecins, a pu débarquer samedi dernier 82 réfugiés sur l'île italienne de Lampedusa, après un feu vert arraché à l'Italie qui marque un changement de cap pour le pays par rapport à la politique menée par Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur qui avait quitté le gouvernement italien il y a quelques semaines. Les réfugiés seront accueillis par l'Italie, la France, l'Allemagne, le Portugal et le Luxembourg. Et cet événement rouvre un espoir d'ouverture de discussion avec l'Italie pour une politique concertée d'accueil des réfugiés en Europe.
On passe maintenant à l'Arabie Saoudite. Samedi 14 septembre, les rebelles houthistes yéménites ont revendiqué l'attaque en drone de deux sites pétroliers d'Arabie Saoudite en représailles aux attaques de Riyad. Mike Pompeo a immédiatement accusé l'Iran, allié des houthistes et grand rival de l'Arabie Saoudite, d'être à l'origine de ces attaques, et Trump mentionnait l'éventualité d'une réponse militaire. En mai dernier, les houthis avaient déjà attaqué deux stations de pompage saoudiennes et commis des actes de sabotage pour lesquels les États-Unis accusaient l'Iran d'être coupable. Des événements qui pourraient avoir d'importantes conséquences géopolitiques. Les attaques ont réduit de plus de moitié la production de pétrole saoudien, le cours de l'or noir s'est envolé de 10% hier matin, et les experts estiment qu'il faudra des semaines à l'Arabie Saoudite pour rétablir sa pleine capacité de production. Mais si Riyad va sûrement puiser dans ses stocks pour compenser cette baisse de production, la confiance des traders pourrait être amoindrie par cette hausse des prix. Économie, géopolitique et rivalité interne, les enjeux de cette affaire à suivre de près sont donc nombreux.
Et c'était ce week-end la rentrée politique des différents partis d'opposition à gauche, tout d'abord avec la fête de l'humanité qui a eu lieu ce week-end donc. Le rassemblement annuel de la gauche s'est déroulé comme une histoire écrite un petit peu d'avance. Les routiniers appellent à l'union, cachant mal des dissensions pérennes. Fabien Roussel, le premier secrétaire du Parti communiste, après la défaite du parti aux européennes, avance un programme ambitieux et commun qu'il souhaite développer avec les autres partis de gauche. Finit donc peut-être l'isolationnisme du PC. Clémentine Autain et Elsa Faucillon, quant à elles, appellent un Big Bang de la gauche quand Olivier Faure revendique la défense du clivage gauche-droite. C'est bien de l'identité de la gauche qu'il s'agit ici avec cette défense d'une couleur commune. Enfin, Adrien Quatennens de la France Insoumise rappelle « L'ordre du jour n'est pas le rassemblement d'un camp, mais la construction d'une nouvelle majorité. Une façon habile de rappeler que l'identité de la gauche est plus que jamais vacillante. » L'extrême droite également Le Rassemblement national faisait sa rentrée à Fréjus ce dimanche avec une ambition affirmée, 2022, et les municipales comme marchepied d'ici là. Et là aussi, on appelle au rassemblement des souverainismes tout en consacrant le discours de Marine Le Pen à la proximité, un thème qui n'a sans doute pas manqué d'inspirer le mouvement des Gilets jaunes.
Alors, puisqu'on parle rassemblement et contestation, parlons maintenant des grèves et de la réforme des retraites. Une grève historique à la RATP, des pilotes de ligne, médecins et avocats mobilisés partout en France. La situation est inédite et les Français se mobilisent en masse contre la réforme des retraites proposée par le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye. Parmi les principaux reproches adressés au nouveau système de retraite à points, son insécurité. Les Français, en effet, ne connaîtront ni leur âge de départ à la retraite, ni le montant exact de leur pension. On dénonce aussi le fait que les régimes de retraite autonomes se fondront dans le système universel prévu par la réforme. Autre inquiétude, les réserves accumulées par les caisses de retraite complémentaires pourraient être captées par le gouvernement et certains n'hésitent pas à parler de spoliation. Dernier point d'achoppement important, certaines professions vont également voir leur taux de cotisation augmenter. C'est le cas des avocats. Et même si certains métiers sont concernés par une baisse de ce taux de cotisation, cette baisse se traduira aussi par une baisse des pensions et des droits à la retraite. Parmi les autres mesures annoncées par le gouvernement Macron, une retraite minimale à 1 000 euros, la réindexation sur l'inflation des retraites de moins de 2 000 euros et un âge légal de départ complété par un âge d'équilibre. Un projet phare du fameux acte 2 du quinquennat qui risque de donner du fil à retordre au gouvernement. Car même si Édouard Philippe a prôné le dialogue en assurant que les concertations auraient lieu jusqu'à fin 2019 et le vote avant l'été prochain, SOS Retraite, Force Ouvrière et la CGT appellent à continuer la lutte.
C'était hier au tribunal correctionnel de Lyon, deux activistes d'ANV COP21 qui s'étaient introduits dans la mairie du 2e arrondissement il y a quelques mois pour y décrocher de portraits d'Emmanuel Macron et étaient inculpés de vol en réunion. 500 euros étant requis par le parquet ont été relaxés par le tribunal, se fondant entre autres sur le témoignage de l'ex-ministre Cécile Duflot, selon lequel l'accord de Paris sur le climat n'a pas été respecté en France par manque de volonté politique. Le jugement est une véritable reconnaissance inédite de la désobéissance civile et affirme que, je cite, « le mode d'expression des citoyens ne peut se réduire au droit de vote mais doit inventer d'autres modes de participation face à un état de nécessité qui rend le décrochage légitime. Ce décrochage qui doit être interprété, je cite, comme un substitut au dialogue impraticable entre le président de la République et le peuple, à bon entendeur.
Et pour clore ce journal, un petit point sur les pesticides. L'affaire avait beaucoup fait parler d'elle cet été. Le maire de Langouette avait été convoqué en justice pour avoir refusé l'épandage de pesticides près des habitations. Avant-hier, les maires de Paris, Lille, Nantes, Grenoble ou Clermont ont interdit l'usage de pesticides sur leur territoire. Certains ont opté pour une interdiction totale du produit, d'autres ont préféré punir les épandages effectués à moins de 150 mètres des habitations. Certains dénoncent un coup de com', étant donné que l'usage des pesticides était déjà limité en milieu urbain et interdit pour les particuliers. D'autres, au contraire, saluent une initiative qui risque de faire bouger les choses, alors qu'une récente étude confirme que 60% des pesticides seraient des perturbateurs endocriniens.
Et après ce rappel des titres, nous passons au billet d'ici.